Extrait numéro 20, chapitre 26. La régence de Birène. Voilà une des mille légendes de la forteresse. Je vais vous en dire une autre, plus courte, non moins terrible. Dans notre étude sur Pierre Ier, nous avons dit un mot de la naissance de ses deux filles, Anne et Élisabeth. Anne épousa un prince de Holstein-Gottorp et eut de lui un fils qui fut depuis Pierre III. Quant à Élisabeth, la seconde fille de Pierre, comme sa sœur Anne, elle était doublement adultérine, étant née de Catherine Ier pendant le mariage de son père avec Eudoxie Lapoukine et pendant celui de sa mère avec le brave Trabant qui ne fit que paraître et disparaître, mais qui, quoique disparu, vivait toujours. Sa tante Anne Ivanovna, fille de l'idiot Ivan, qui avait régné conjointement avec le tsar Pierre et qui était mort en 1696, sa tante Anne Ivanovna, disons-nous, en vertu du droit que s'étaient arrogé en Russie les empereurs et les impératrices de nommer leurs successeurs, l'avait écarté du trône pour y faire monter le petit Ivan Antonovitch, son neveu, petit-fils de sa sœur, qui avait épousé un duc de Mecklembourg. De ce mariage était née Anne de Mecklembourg, qui, mariée au duc Antoine Ulrich de Brunswick, était accouchée du jeune tsar Ivan Antonovitch, justement 3 mois avant la mort de l'impératrice, et comme pour tirer celle-ci d'embarras. La cause de cette préférence du petit-fils de la fille d'Ivan sur la fille de Pierre tenait à ce que la princesse Élisabeth, ayant 31 ans, régnerait seule, tandis que le petit Ivan, âgé de 3 mois, laissait tout le pouvoir aux mains d'un régent. Le pauvre enfant en régna 8 et paya ce règne éphémère par 22 ans de prison et une mort sanglante. Birène avait été nommé son régent. Birène était le petit-fils d'un palefrenier de Jacques III, duc de Courlande. Le chef de la famille avait eu 2 fils, dont l'un était passé au service de la Pologne et dont l'autre était resté en Courlande. Celui-ci avait accompagné, à titre d'écuyer, le fils de son maître qui fut tué d'un coup de feu au siège de Bude. À son retour, il reçut, en récompense de son dévouement, le titre de capitaine des chasses. L'aîné Jean-Ernest gagna les bonnes grâces de Beslichef, grand maître de la cour de la duchesse de Courlande, devint l'amant de la duchesse et dès lors se fit descendre des Birons de France. Lorsque la duchesse de Courlande était devenue impératrice de Russie, Birène, lui, était devenu duc de Courlande. Birène était profondément haï des Russes. D'abord, comme Courlandais, les Russes ont la haine instinctive de l'étranger, puis comme favori de l'impératrice. Lui-même haïssait profondément les Russes. Il n'avait jamais voulu apprendre leur langue pour ne pas lire les placets, les demandant grâce adressées à l'impératrice par ses sujets. C'était un sombre et féroce despote que ce favori, et qui avait du grand dans sa taciturne férocité. Avec lui, point de procès, point même l'apparence des formes judiciaires. Un homme lui déplaisait, il masquait 4 sbires, les sbires se jetaient sur l'homme désigné, l'enfermaient dans une voiture couverte, la voiture partait pour la Sibérie et revenait vide. Qu'était devenu cet homme? Ses parents n'osaient même pas le demander. Jamais on ne le revoyait, jamais on n'en entendait plus parler. 25 000 personnes, dit-on, disparurent exilées, assassinées ou exécutées pendant les 10 ans de pouvoir du terrible favori. Il avait, chose rare après Phalaris, Néron et Louis XI, trouver un supplice nouveau. Par ces terribles froids de 25 et de 30 degrés qui règnent en Russie, il faisait verser de l'eau sur la tête du patient jusqu'à ce que le corps vivant, se refroidissant peu à peu, fût changé en statue de glace. Un seigneur nommé Vonitsine avait adopté la religion juive. Il le fit brûler vif avec celui qui l'avait converti. Il en résulta que tant que l'impératrice Anne vécut, Birène fut sauvegardée de la haine des Russes par l'amour de l'impératrice. Mais l'impératrice morte, son amour avec elle au tombeau, la haine nationale resta seule comme un serpent dans l'herbe de son chemin. Birène s'aveuglait. Il ignorait cette haine. L'insensé se croyait populaire. Il traitait hautainement la mère de l'empereur, la petite fille d'Ivan, et un jour, il alla jusqu'à lui dire « Songez bien, madame, que je puis vous envoyer, vous et votre mari, en Allemagne, et qu'il y a de par le monde un duc de Holstein que je puis faire venir en Russie. Et ainsi ferai-je si l'on m'y force. » Ce duc de Holstein était Pierre de Holstein, fils d'Anne, première fille de Pierre le Grand, dont nous avons dit un mot au commencement de ce chapitre et qui fut depuis Pierre III. Nous le verrons venir, en effet, à son tour, appelé non par Birène, mais par Élisabeth pour satisfaire une autre vengeance. Celui-là ne régna guère plus longtemps que lui et mourut d'une mort non moins tragique. C'est une sombre histoire que celle des empereurs de Russie au XVIIIe et même au XIXe siècle. À partir de cette menace du régent, la glace fut rompue entre Birène et les parents du tsar. Il y avait alors à la cour de Russie un vieux général allemand dur à lui et dur aux autres. Il avait fait, avec le prince Eugène, qu'il appelait son élève chéri, la guerre de la succession. Puis il était passé au service de Pierre le Grand, qui lui avait confié l'exécution du canal de la Doga. À la mort de Pierre III, Anne Ivanovna avait partagé les honneurs entre lui et le vice-chancelier Ostermann, autre homme de génie parti de bas, qui devait monter sur l'échafaud pour en redescendre jusqu'à l'exil. Anne Ivanovna avait fait ce vieux général allemand feldmaréchal et conseiller privé. On le nommait Christophe Burchard, comte de Munich. Avec ce titre, il avait battu les Polonais et les Turcs et s'était emparé de Perekop, d'Orchakov et de Chokzim. Birène, qui craignait son influence, l'envoyait guerroyer au loin, tandis que lui régnait tranquillement. Chacun avait sa part, Munich la gloire, le favori la haine. Une de ces guerres suscitées par cette crainte de Birène coûta à l'Empire 100 000 hommes. Elle fut désastreuse. Mais au milieu du désastre, Munich grandit encore s'il lui était possible de grandir. Toujours à la tête des troupes, au milieu des marches les plus difficiles, il maintenait la discipline par une justice terrible. Des officiers généraux avaient, brisés de fatigue, prolongé une halte plus longtemps que ne l'avait permis l'infatigable Munich. Ils étaient attachés à des canons pendant de longues marches et quand ils ne pouvaient plus traîner, ils étaient traînés. Les soldats, dans la crainte des déserts sablonneux qui séparent les deux empires, feignaient d'être malades pour ne pas aller plus loin. Munich publia un ordre du jour par lequel il défendait d'être malade sous peine d'être enterré vif. Trois soldats, atteints et convaincus du crime de maladie volontaire, furent enterrés vifs au front de l'armée, qui passa sur eux, foulant aux pieds la tombe où peut-être ils respiraient encore. À partir de ce moment, tout le monde se porta bien. Au siège d'Otchakov, une bombe avait allumé dans la ville un incendie que les habitants ne pouvaient éteindre. Munich profita de l'événement pour ordonner l'assaut. L'incendie s'étendait jusqu'aux remparts qu'on voulait emporter. Il fallait lutter non seulement contre l'ennemi, mais encore contre la flamme. Les Russes reculèrent. Munich fit pointer derrière eux et contre eux une batterie de canons, de sorte qu'ils n'avaient de refuge que sur les remparts. Trois magasins à poudre sautèrent, couvrant de débris assiégés et assiégeants. Mais placés entre deux morts, les Russes choisirent la moins certaine. La ville fut prise, tout autre que Munich y eût échoué. À force de victoire, il était devenu premier ministre. Un jour qu'il portait à la mère du jeune empereur un de ces messages désagréables que ne lui ménageait point Biren, la princesse lui dit « Monsieur Munich, obtenez pour moi une chose de son Altesse, c'est qu'elle me laisse retourner en Allemagne avec mon mari et mon fils. » « Pourquoi cela ?» demanda Munich. « Parce que c'est, je crois, dit-elle, le seul moyen d'échapper au sort qui nous attend. » « Ce n'est pas toute votre espérance, » lui dit Munich en la regardant fixement. « Non, j'ai toujours eu celle qu'un homme de courage comprendrait ma situation et m'offrirait ses services. » « Et cet homme de courage, l'avez-vous choisi ?»« J'attendais qu'il s'offrît de lui-même. » « N'avez-vous parlé à personne de ce que vous dites là ?»« À âme qui vive. » »« C'est bien, » dit Munich, « l'homme de courage est trouvé. Je me charge de tout, à la condition que je ferai l'affaire seule et comme je l'entends. Je me fie à votre honneur, général. Comptez sur lui. Et quand vous mettez-vous à l'œuvre, cette nuit ?» Anne de Mecklembourg s'effraya et voulut faire quelques objections. « Ce sera ainsi, madame, lui dit Munich, ou cela ne sera point. » Anne réfléchit un instant, puis avec résolution. « Faites, dit-elle. » Munich sortit. C'était le 28 octobre 1740. Munich dîna et soupa avec le régent. Pendant le dîner, Biren était sombre et rêveur. Munich lui demanda quelle chose le troublait. « C'est étrange, dit-il, je suis sorti aujourd'hui, j'ai vu très peu de monde dans les rues, et ce peu qu'il y avait m'a paru triste, abattu, inquiet. C'est, dit Munich, que tout le monde désapprouve la conduite du duc de Brunswick, qui n'a pas pour votre Altesse toute la reconnaissance qu'il doit. « Au fait, c'est possible, répondit Mirène. » toujours prêt à s'abuser. Mais il n'en demeura pas moins pendant tout le dîner, pensif et silencieux. Après le dîner, Munich se rendit chez la princesse Anne. « Votre Altesse a-t-elle quelques nouveaux ordres à me donner ? » demanda-t-il. « Est-ce donc toujours pour cette nuit ? » ?»« Toujours. Dites-moi au moins comment vous comptez vous y prendre. Ne me le demandez pas. « Vous seriez ma complice si je vous le disais. Seulement, ne vous effrayez pas si j'éveille votre Altesse et la fais sortir du lit vers 3 heures du matin. » La princesse fit un signe de tête. « C'est bien, dit-elle, je remets mon fils, mon époux et moi-même entre vos mains. » En quittant la princesse, Munich rencontra le comte Löwenwold. Il se rendait de son côté chez le duc de Courland, où, comme Munich, il était invité à souper. Ils trouvèrent le duc dans la même inquiétude, se plaignant de l'accablement de son esprit et d'une pesanteur que, de sa vie, il n'avait éprouvée. Il était couché tout habillé sur son lit. Tous deux lui dirent que ce n'était qu'une indisposition, qu'une bonne nuit ferait passer. Munich, pour entretenir la conversation qui languissait, parla de ses campagnes et des diverses actions auxquelles il avait assisté pendant plus de 40 années de service. Tout à coup, Löwenwold lui demanda « Monsieur le maréchal, dans vos expéditions militaires, N'avez-vous rien entrepris d'important pendant la nuit ? » La question venait si à point que Munich tressaillit. Mais faisant bonne contenance, il répondit tranquillement « Je ne me rappelle pas avoir entrepris de choses extraordinaires pendant la nuit, mais j'ai pour principe de saisir toutes les occasions qui me sont favorables. » Et tout en répondant ainsi, il jeta un regard de côté sur le duc de Courland. Le duc se souleva un peu à la question de M. de Löwenwold, resta appuyé sur le coude et la tête dans sa main pendant tout le temps que dura la réponse de Munich, puis se laissa retomber sur son lit avec un soupir. À 10 heures, on se sépara. Munich rentra chez lui et se mit au lit comme d'habitude. Mais il avoua lui-même n'avoir pu fermer les yeux. À 2 heures du matin, il se leva et fit appeler son aide-de-camp Manstein, lui donna ses ordres et se rendit avec lui au palais de la princesse Anne. Il rassembla dans son antichambre les officiers qui étaient de garde auprès d'elle. Puis il entra chez la princesse et ressortit presque aussitôt avec elle. « Messieurs, dit-il, son Altesse ne saurait supporter plus longtemps les outrages dont l'abreuve le régent. Elle en appelle à votre patriotisme contre cet étranger et vous met sous mes ordres. Il s'agit d'arrêter le duc de Courland. Êtes-vous prêt ? » ?»« Ce n'est point le maréchal Munich qui ordonne, c'est moi qui prie, messieurs, dit la princesse en donnant ses mains à baiser aux officiers. » Les officiers se précipitèrent sur les mains et les baisèrent, quelques-uns à genoux. Il n'y eut qu'un cri contre le duc qui était universellement haï. La garde était composée de 140 hommes. On en laissa 40 au palais. Munich, son aide-de-camp et les officiers se rendirent au palais d'été où logeait Biren. La petite troupe fit halte à 200 pas du palais. Là, le maréchal députa Manstein vers les officiers de la garde du régent pour leur annoncer ce qui se passait. Ceux-ci, qui tout autant que leurs camarades détestaient Biren, non seulement se réunirent à eux, mais offrirent même leur secours pour arrêter le duc. Manstein rapporta ses bonnes dispositions à Munich. « Alors, fit le maréchal, ce sera encore plus facile que je ne croyais. Prenez avec vous un officier et 20 hommes, pénétrez avec eux dans le palais, arrêtez le duc, et, s'il fait résistance, tuez-le comme un chien. » Manstein obéit. Il pénétra dans la chambre à coucher du duc. Celui-ci était dans le même lit avec sa femme. Tous deux dormaient si profondément que le bruit d'une porte qu'il fallut forcer ne les éveilla point. Manstein, voyant que rien ne bougeait, alla droit au lit et tira les rideaux en disant « Éveillez-vous, monsieur le duc !» Le duc et sa femme s'éveillèrent, et voyant leur lit entouré de gens armés, leur premier mouvement fut de crier au secours. En même temps, le duc se laissait glisser à terre pour se cacher sous le lit. Mais Manstein l'arracha de la ruelle. Les soldats se précipitèrent sur lui et le bâillonnèrent. On lui lia les mains avec une écharpe, on fit des couvertures arrachées du lit, des manteaux pour le mari et pour la femme, et on les emporta au corps de garde. Lorsque la duchesse apprit que c'était Munich qui avait dirigé cette arrestation, « J'aurais plutôt cru, dit-elle, que le Dieu Tout-Puissant pût mourir, que le maréchal se conduire ainsi à mon égard. » Biren et sa femme furent envoyés en Sibérie. Le prince Ulrich de Brunswick, père de l'empereur, fut déclaré généralissime et Munich premier ministre, ce qui enlevait à Ostermann à peu près toute son importance. Il en résulta qu'Ostermann, au bout de 3 mois, était parvenu à prouver à la régente et à son mari nommé co-régent que ce qu'ils avaient de mieux à faire, ne pouvant récompenser dignement l'homme auquel ils devaient tout, c'était d'être ingrats envers lui. C'est un de ces conseils qui ont tant d'attrait pour les princes qu'ils y résistent rarement. Au bout de 3 mois, Munich offrait sa démission, qui était acceptée, après quoi il demeura à Saint-Pétersbourg, se contentant, dit l'histoire, d'inquiéter ses ennemis par sa présence. La duchesse Anne n'avait pas négligé cette formalité passablement inutile, mais à laquelle les souverains tiennent, on ne sait pas pourquoi, de se faire prêter serment de fidélité en prenant la régence. Au nombre des personnes qui avaient prêté ce serment était la princesse Élisabeth, qui, étant fille de Pierre Ier, pouvait bien se croire autant de droits à la couronne qu'en avait eu la fille d'Ivan et l'arrière-petit-fils de Pierre. Cependant, elle n'avait fait aucune difficulté de prêter ce serment. Seulement, elle s'était laissée dire et avait gardé dans sa mémoire que la plupart des soldats qui, sous le commandement de Munich, avaient arrêté le duc de Courlande, avaient cru agir par son commandement et à son profit. D'ailleurs, on s'inquiétait peu de la princesse Élisabeth. C'était une belle et sensuelle personne qui, pour être libre, non seulement de son cœur, mais encore de ses sens, n'avait jamais voulu se marier et qui professait cette douce maxime qu'elle n'était heureuse que quand elle était amoureuse. Elle aimait fort la table, avec cela le luxe et les plaisirs, de sorte que la régente avait une conviction, c'est que tant qu'elle ne laisserait pas la princesse Élisabeth manquer d'argent, elle n'avait rien à craindre de celle-ci. En effet, la princesse Élisabeth menait joyeuse vie et ne paraissait s'inquiéter en rien de la politique. Dès le règne de la reine Anne, au reste, de grandes facilités lui avaient été données pour cela. Nous avons sous les yeux une dépêche de M. Rondeau, notre ministre en Russie, en date du 28 mai 1730, c'est-à-dire de 10 ans antérieure à l'époque où nous sommes arrivés, Élisabeth n'ayant que 21 ans. Dans cette dépêche, nous lisons « La princesse Élisabeth est malade ou fin de l'être depuis quelque temps. Les indices que c'est parce qu'on lui a préféré la tsarine Anne, d'autres croient que c'est un prétexte pour ne pas se trouver au couronnement, parce que l'on soupçonne qu'elle est grosse du fait d'un grenadier dont elle est amoureuse et qu'elle ne peut pas se montrer en grand habit sans découvrir son état. Si c'est la raison ou non, je ne saurais l'affirmer. Mais ce qui est certain, c'est qu'elle mène une vie très irrégulière et la tsarine paraît n'être point fâchée qu'elle se perde dans l'opinion. Car au lieu d'éloigner le grenadier favori, qui est, il est vrai, un gentilhomme, Sa Majesté l'a dispensé de tout service afin qu'il puisse toujours être à la disposition.